Donc je vais continuer ce chapitre sur mes années universitaires et notamment avec l'aumônerie universitaire catholique. Mais avant, je vais faire un bilan et puis après, je vais faire un bilan, je veux dire, de mon séjour chez les évangéliques. Et puis, je vais aborder un chapitre sur la lecture de la Bible et l'élaboration de cette règle de prière qui fait l'objet de mon site. Mais tout d'abord, je vous propose mon départ de chez les évangéliques, un bilan. Comme je le disais à l'enregistrement précédent, ma découverte de l'aumônerie me réservait beaucoup de surprises. Mais avant d'aborder ma découverte de l'aumônerie proprement dite, je voudrais dire un mot sur la période de transition que j'ai vécue entre le moment où j'étais partie prenante dans le groupe évangélique et celui où mon investissement s'est pleinement porté sur l'Église catholique. Tout d'abord, la réaction des évangéliques à mon départ. Il est bien évident que mon choix de revenir à l'Église catholique a beaucoup étonné mes amis évangéliques. Ils ne comprenaient pas comment cela était possible, eux qui étaient plutôt habitués à voir des catholiques tièdes venir gonfler leur rang. On peut dès lors comprendre que pour eux, une seule explication était possible. J'avais mal tourné. Je me souviens d'ailleurs de quelques rencontres avec des membres du groupe biblique après ma décision. À cette occasion, ils n'ont pas manqué, il faut bien le dire, de m'avertir que l'Église catholique était remplie d'erreurs et que par conséquent je me fourvoyais. Face à ces affirmations pour le moins péremptoires, j'avoue qu'à l'époque je n'avais pas trouvé les mots pour leur expliquer mon choix. Mais en définitive, cela aurait-il servi un tant soit peu? Ils étaient tellement persuadés que eux seuls possédaient la vérité, que la meilleure explication du monde aurait été bien inutile. Je dois dire également, à leur décharge, qu'il ne m'était pas très facile de justifier ma décision, d'autant que je connus, comme toute période de transition, des hésitations. Ainsi, tout en étant membre de l'aumônerie, je continuais pendant un certain temps à fréquenter les réunions bibliques, jusqu'au jour où ma position devint vraiment intenable du fait des jugements formulés plus ou moins explicitement par la plupart des membres du groupe biblique. Pour conclure ce chapitre relatif aux évangéliques, je pourrais dire que je ne regrette pas cette expérience, dans la mesure où elle m'a encore davantage enraciné dans l'amour de la parole de Dieu. Pour moi, il m'est devenu maintenant impossible de concevoir ma foi indépendamment d'une lecture assidue de la Bible, même si, je dois le dire, cette conception de la foi était à nuancer pour d'autres, comme nous le verrons plus tard. J'ai aussi appris par eux que l'Église, avant d'être une institution, est une assemblée, ce qui est lourd de conséquences pour la vision que l'on peut avoir de la messe ou de la vie en Église. M'autoriserez-vous à ce sujet une petite digression? Bien que mon amour de l'Église soit, je l'espère, profond, il n'est pas aveugle. Il y a en effet certains aspects de sa vie qui, à mon avis, mériteraient d'être revus. Donc je vous propose maintenant d'aborder cette partie, l'apport des évangéliques dans ma vision de la liturgie. Par exemple, ce qui m'a toujours manqué dans les messes, c'est la spontanéité et l'enthousiasme dont faisaient preuve les évangéliques dans leurs réunions. Les chants également étaient d'une très grande intensité, tant par leurs paroles souvent tirées de la Bible que par leurs mélodies rythmées et entraînantes. Par contraste, je dois dire que les chants de la messe sont à mon goût bien peu enthousiasmants, sauf exception bien sûr. C'est un avis qui n'engage que moi, mais l'aggiornamento, avec un accent moins italien, l'aggiornamento, la mise à jour de l'Église lancée par Vatican II, a besoin d'être approfondie et prolongée vers une plus grande spontanéité dans les liturgies, où les fidèles pourraient s'investir pleinement par une participation plus grande. Si on lit attentivement les actes des apôtres, on se rend vite compte que le rite était plus conçu comme un cadre servant à l'épanouissement de la spontanéité priante par l'apport d'une certaine structuration, plutôt qu'à figer la prière dans des formulations interdisant toute intervention des fidèles. Je vous conseille la lecture des actes des apôtres, chapitre 2, versets 42 à 44, versets 46 à 47, toujours les actes des apôtres, chapitre 4, versets 23 à 31, chapitre 12, versets 12 à 16, chapitre 13, versets 1 à 3, et ce passage de l'épître aux Colossiens, chapitre 13, verset 16. Donc à ce sujet de la liturgie donc et des messes, si vous voulez en savoir plus sur les adaptations possibles en assemblée dominicale, donc pour une plus grande spontanéité, ou à l'intérieur d'un office de liturgie des heures, vous pouvez consulter cette page, Adaptation de la méthode de prière à la prière en famille et en groupe. C'est un document Word. Vous le trouverez sur la page d'accueil. Vous allez dans la formule Autonomie, vous allez sur le tableau et vous aurez un moment, un lien qui vous amène vers ce document Word. Donc il est évident que ces adaptations dont je parle dans ce document sont à envisager dans des petits groupes plutôt que dans des grandes assemblées. Dans le cas de plus grands rassemblements, certains moyens techniques, micros circulant dans l'assemblée, etc., peuvent compenser quelque peu l'effet de surnombre. On peut penser à la subdivision de l'assemblée en plus petits groupes au moment des partages, pour après récapituler les partages par des prières de rapporteurs, etc. Cette dernière suggestion trouve plus ou moins sa mise en pratique dans ce qu'on appelle les dimanches paroles en fête. Mais ce type de messe du dimanche reste l'exception. Donc ces adaptations permettant une plus grande participation du fidèle n'empêchent pas d'ailleurs les prières eucharistiques, un court serment introducteur ou récapitulatif du prêtre, etc. Ce ne sont évidemment que des suggestions, mais il y a une direction qu'il me semble intéressant de prendre. De même, posons-nous la question de la participation du corps dans nos messes assis debout. Le geste de paix est un excellent premier pas réintroduit à la suite de Vatican II. Je dis réintroduit car les premiers chrétiens connaissaient bien le baiser de paix, confère 1er épître de Pierre, chapitre 5, verset 14. Comme on le voit, la tradition n'est pas du côté que l'on croit. Quoi qu'il en soit, mon but, comme vous l'avez certainement compris, n'est pas de contester, de révolutionner ou de critiquer. Je préfère le chemin de l'obéissance réformatrice et priante, c'est-à-dire une réforme que je confie au Seigneur, car lui seul sait jusqu'à quel point j'ai tort ou raison. Lui seul peut initier les réformes nécessaires dans un amour respectant les réticences et les crispations, et ce, pour atteindre à plus long terme une adhésion profonde et agissante de la part de tous. Et si, dans le mûrissement de la vie de l'Église, le Seigneur appelle à une action plus visible, ce ne sera alors plus dans la contestation du fait même que les situations auront mûri grâce à la prière. Après cette petite ou trop longue parenthèse, utile toutefois si l'on veut bien comprendre ce que m'ont apporté ces groupes bibliques évangéliques protestants, je me propose de reprendre le fil de mon témoignage, à savoir les raisons pour lesquelles je suis revenu au christianisme de sensibilité catholique. Cette dernière expression, donc christianisme de sensibilité catholique, n'étant pas choisie innocemment. En effet, elle me paraît plus adaptée que catholicisme, dans la mesure où nous ne devons pas oublier que nous sommes chrétiens avant d'être catholiques, protestants ou orthodoxes. Si nous comprenions bien cette réalité, l'œcuménisme ferait un pas de géant. Abordons maintenant cette partie, l'Église catholique et les autres confessions chrétiennes. Mais, me direz-vous, si l'on est chrétien avant d'être catholique, pourquoi avoir opté pour le catholicisme? Tout d'abord, comme vous avez peut-être déjà pu le lire dans les pages ou les enregistrements précédents, retrouvailles, notamment chapitre 5, retrouvailles avec ma mère l'Église, les faits, les raisons qui m'ont poussé à réintégrer le giron catholique sont d'ordre doctrinal. C'est d'ailleurs pourquoi je comprends pleinement la présentation des liens qu'il existe entre l'Église catholique et les autres chrétiens, puis entre l'Église et les autres religions, dans l'article de foi de Vatican II, intitulé « Lumen Gentium », chapitre 2, les points 15, 16 et 17. Dans ce chapitre, les églises, puis les religions, sont présentées de manière concentrique. D'abord les catholiques, ensuite les chrétiens, ensuite les juifs, ensuite les musulmans, et enfin les autres religions. Plus on est proche du centre qu'est l'Église catholique, plus on est proche de la vérité. Plus on s'éloigne du centre, plus on s'éloigne de la vérité. Maintenant, je peux dire que non seulement j'adhère à cette présentation cérébralement, mais aussi par expérience. Oui, vraiment, j'ai la conviction que je suis dans l'Église la plus proche du cœur de Jésus, sans pour autant nier aux autres églises la possibilité de m'enseigner et de m'inspirer dans la mesure où précisément elle se trouve, malgré certains manques, dans le rayon d'amour du Christ. Je disais donc que je pouvais souscrire à l'affirmation de Vatican II que je viens de développer par expérience, ce qui me ramène à mon témoignage personnel. J'en étais arrivé au moment où je décidais de franchir le, Oui, j'en étais arrivé dans mon témoignage personnel, pardon, au moment où je décidais de franchir le pas. Donc, oui, je disais, oui, voilà, j'étais arrivé au moment où je décidais de franchir le pas. La nécessité de quitter ouvertement et définitivement le groupe biblique évangélique m'était désormais devenue une évidence. Donc maintenant, je vais aborder les clichés et erreurs d'analyse de la part des évangéliques par rapport, enfin, en rapport avec la doctrine de l'Église. Je vais vous donner un exemple. Ce départ me fut, disais-je, grandement facilité par l'attitude du groupe biblique lui-même, mais pas uniquement. Il ne fut pas très difficile de me rendre compte de certaines limites propres aux évangéliques quand j'entrais en contact avec l'aumônerie catholique. En premier lieu, je ne mis pas longtemps à m'apercevoir que l'opinion des évangéliques sur la vie de l'Église catholique reposait sur une montagne de préjugés enracinés dans un abîme d'ignorance. Cette ignorance était en un certain sens bien compréhensible, puisque les catholiques, entre guillemets, qui se convertissent au christianisme évangélique, ne sont en toute logique catholiques que de nom, tout comme moi à l'époque. Ils n'ont pas une connaissance approfondie du catholicisme, ils ne pratiquent pas ou peu. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que les évangéliques n'est une vue que très partielle, pour ne pas dire partiale, du catholicisme. Voici, pour illustrer mon propos sur les clichés véhiculés par les, entre guillemets, convertis venus du catholicisme, quelques erreurs, ou quelques morceaux, si vous préférez, choisis. Par exemple, que de réflexions n'ai-je pas entendues de la part de ces soi-disant catholiques sur la superstition catholique au sujet du culte des saints, etc. Mais ces baptisés catholiques, ayant abandonné toute pratique religieuse après la profession de foi ou la première communion, n'avaient aucune idée des fondements bibliques de ce culte, ou du sens profond de l'expression communion des saints, article du credo auquel les évangéliques adhèrent pourtant. De même, je me souviens avoir entendu, dans la bouche de certains pasteurs, des déclarations bien tranchées sur la superstition eucharistique des catholiques, ou sur les supposées erreurs doctrinales du magistère catholique, notamment au sujet du sacrifice eucharistique, qui, selon l'Église, reproduit le sacrifice du Christ à chaque messe. Versets bibliques à l'appui, ils ne doutaient pas du bien fondé de leur croisade anti-catho. Alors, pour les saints, je vais développer ça plus tard, mais maintenant je vais m'attaquer à cette soi-disant superstition eucharistique. Donc, ces pasteurs, etc., ont-ils seulement lu ce que le Christ lui-même dit de la communion à son corps et à son sang, en Jean chapitre 6, versets 48 à 58? Ont-ils vraiment compris la logique de l'amour de Dieu qui se donne éternellement, ce qui englobe aussi cette période transitoire qu'est notre monde ici-bas? Sous cet angle, il devient tellement plus normal de penser que le Christ nous aime au point d'actualiser son sacrifice à chaque Eucharistie, car c'est ainsi pour nous, ici et maintenant, qu'il est mort. Sinon, pourquoi l'Épître aux Hébreux sous-entend-elle, comme le philosophe Blaise Pascal, que le Christ est en agonie jusqu'à la fin des temps? Confère Hébreux, chapitre 7, verset 25. En effet, on ne peut imaginer un Christ intercédant pour nous, confère aussi Romains, chapitre 8, verset 34, sans souffrir si intensément de notre péché qu'il en reproduit les gouttes de sang qu'il transpira au jardin des Oliviers, il y a de cela 2000 ans, et ce tout particulièrement dans le sacrifice eucharistique, mémorial du sacrifice du Christ sur la croix, sacrifice toujours si actuel, tant le Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, dans son amour compatissant pour nous. Confère Hébreux, chapitre 13, verset 8. Certes, l'Épître aux Hébreux spécifie également que le Christ souffrit une fois pour toutes, je cite, car alors il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la fondation du monde. Or c'est maintenant, une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour abolir le péché par son sacrifice. Hébreux 9, verset 26. Le côté unique du sacrifice qui s'est produit sur la croix il y a 2000 ans est bien évident. Le Christ souffrit sur la croix à un moment précis de l'histoire. Mais cela empêche-t-il ce sacrifice de produire des fruits qui ont précisément pour but de réactualiser ce sacrifice suprême dans nos esprits, nos cœurs et nos corps? Ces fruits éclosent à chaque Eucharistie et s'enracinent en nous à chaque communion, puisque c'est le Christ lui-même qui s'enracine en nous par sa présence réelle. N'avons-nous pas là une réalisation particulièrement concrète et parlante de cette promesse du Christ de venir habiter en nous? Confère Jean chapitre 14, verset 23, Apocalypse chapitre 3, verset 20. Cette digression eucharistique est en définitive tout à fait pertinente, car elle met en lumière une façon de lire les Écritures chez les évangéliques qui est pour le moins déficiente. Cette carence explique, soit dit en passant, toutes les divergences théologiques entre protestants et catholiques, Eucharistie, Vierge Marie, Saint, autorité du pape, etc. Par exemple, comme nous le verrons plus tard, la compréhension du rôle de la Vierge Marie nécessite une lecture ô combien plus exigeante que la simple mémorisation de versets. Je voudrais faire une petite parenthèse et apporter une toute dernière précision avant de passer aux découvertes que je fis par l'aumônerie catholique. Comme vous l'avez sans doute remarqué, je parle surtout de mon expérience avec les évangéliques ou évangélistes. Il s'agit là d'une des branches les plus extrêmes du protestantisme. Beaucoup des critiques que j'ai formulées jusqu'ici ne s'appliquent qu'à eux, je veux dire intolérance vis-à-vis du catholicisme, place exclusive de l'évangélisation verbale au détriment des œuvres, etc. J'ai eu aussi le bonheur de connaître, et j'ai toujours le bonheur de connaître, des luthériens et des baptistes. Ils sont beaucoup plus œcuméniques, fort heureusement, bien que nous ne partagions pas certains points de doctrine concernant la Vierge, les saints, le pape, l'Eucharistie, la place de la charité en relation avec l'évangélisation, etc. Ces clarifications étant faites, je vous propose maintenant de partager mes réflexions et expériences vécues alors que j'approfondissais ma connaissance du catholicisme à l'aumônerie catholique de Strasbourg. Donc maintenant, je vais aborder le chapitre vraiment sur l'aumônerie catholique universitaire. Cette partie, ce chapitre pourrait s'intituler « Une autre lecture de la Bible ». Je disais donc que mes frères évangéliques avaient une lecture déficiente de la Bible. Si j'osais une comparaison, je dirais que les évangéliques sont à mi-chemin entre une interprétation savoureuse de la parole et le ras des pâquerettes des témoins de Jéhovah. On entend souvent dire que les protestants connaissent bien la parole de Dieu. Est-ce si sûr? Certes, ils la lisent plus régulièrement que beaucoup de catholiques. Ils ont pour la plupart une connaissance des versets et des références bibliques dignes des témoins de Jéhovah. Mais au-delà de cette connaissance que je qualifierais de factuelle, qu'ont-ils compris les Écritures et de son message en profondeur? À l'évidence, ils ne creusent pas assez le sol fertile de l'Écriture. À l'aumônerie, j'ai effectivement pu constater que de nombreux jeunes catholiques n'avaient qu'une fréquentation minimale de la Bible. À cet égard, je faisais figure d'extraterrestre. Mais à l'inverse, je fis connaissance de prêtres et de religieux dont la vision biblique était d'une finesse inégalée chez mes frères évangéliques. Quelle liberté d'interprétation par rapport à la lettre du texte! Visiblement pour eux, la tradition, le magistère de l'Église n'était en rien un frein, mais bien plutôt un tremplin vers une meilleure compréhension du message biblique. Je découvris alors le profond fossé qui sépare encore trop souvent ces catholiques, entre guillemets, d'élite, que sont prêtres et religieux, et les laïcs catholiques proches de l'inanition scripturaire. Cette découverte a joué d'ailleurs un rôle prépondérant dans l'élaboration de la règle de prière exposée sur ce site, dans la mesure où celle-ci propose un véritable programme de remise à niveau, entre guillemets, biblique, si vous me passez l'expression. Ici, il me faut tout de même préciser que l'on peut être chrétien authentique sans une pratique assidue de la lecture de la Bible. Aussi ai-je vu à l'aumônerie bien des gens dont le comportement est exemplaire sans pour autant qu'ils dévorassent l'Écriture. Ils se privaient certes d'un trésor précieux et merveilleux qui eût dynamisé leurs qualités humaines et spirituelles, leurs talents, dirait Jésus, confère Matthieu 25, versets 14 à 30. Mais leur sens aigu de l'humanité et de la foi montrait combien ils avaient déjà fait fructifier leur capital chrétien. À cet égard, le sacristain de ma paroisse actuelle m'a fourni la réponse à ce qui restera toujours une énigme pour un protestant, énigme qui chez les évangéliques n'est pas loin de donner lieu à ce que l'on pourrait appeler de la mauvaise foi. En effet, pour ces derniers, ne sont pas chrétiens tous ceux qui ne lisent pas la Bible. Par voie de conséquence, il vous suffit de lire la Bible pour être chrétien. Oh, je caricature à peine. Pour preuve, s'il en était besoin, la réflexion d'un de mes frères évangéliques me déconseillant de donner à manger à un clochard dans la rue, de peur de vouloir me justifier par les œuvres, seule la foi pouvant sauver, confère Romains chapitre 3 verset 28, Éphésiens chapitre 2 verset 8 à 9. Donc foi nourrie par la seule lecture des Écritures, cela va sans dire. Ce jeune homme, et je ne plaisante pas, vraiment, c'est ce qu'il m'a dit, ce jeune homme n'avait sans doute pas en mémoire ces versets de l'épître de Saint Jacques. En voici la lecture. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » Jacques chapitre 2, versets 14 à 18. Notons au passage que Luther avait envisagé de supprimer de la Bible l'épître de Saint Jacques, tellement elle lui semblait gênante pour sa vision obsessionnelle et unilatérale de la grâce. Une épître de paille, disait-il. Ce manque de charité au profit d'une foi bien sèche et bavarde est une marque de fabrique que l'on trouve assez fréquemment chez les évangéliques. Si vous voulez plus de renseignements sur une évangélisation différente, nourrie par la charité, vous pouvez consulter ce fichier son MP3 dans la section audio « Comment évangéliser ». Donc revenons à ce bon sacristain de ma paroisse, dont je ne me permettrai pas de dire qu'il n'est pas chrétien, bien que, de son propre aveu, il lise peu la Bible, qui pour lui reste trop compliquée. Cependant, il n'est que de le regarder prier et faire ses dévotions, chapelet dans une main et livre de quelques saints dans l'autre, pour comprendre que la foi se nourrit en réalité de tout ce qui nous permet de mieux connaître le Christ. Messe, sacrement, prière, dévotion, etc. La Bible n'étant qu'un moyen de tendre vers ce but. Non, le but lui-même, ce que certains évangéliques ont grand-peine à saisir. Mais attention, n'allez pas croire que je cautionne ou ni même excuse un manque d'intérêt pour la parole de Dieu quand ce manque d'intérêt s'identifie plus à une paresse spirituelle qu'à une réelle et honnête ignorance de l'importance de la Bible, comme dans le cas de mon bon Saint-Christin, dont l'éducation religieuse est antérieure à Vatican II. Avant ce concile, il faut bien le reconnaître, les catholiques furent plus que dissuadés de lire l'Écriture. Donc je viens de dire que la Bible est un moyen de tendre vers Dieu. Pour être plus exact, je devrais préciser que la Bible est en fait le moyen par excellence de connaître Dieu. Je vous conseille ces pages, « Pourquoi lire la Bible ?» et « Commentaires sur Zacharie ». Vous trouverez tout ça sur la page d'accueil dans l'espace biblique « Lire la Bible ». Donc je disais que la Bible, en fait, est le moyen par excellence de connaître Dieu, non pas le seul, n'en déplaise à mes amis évangéliques. Autrement dit, l'Écriture est, à n'en pas douter, le meilleur chemin vers Dieu. C'est en tout cas ce que pensaient les apôtres. Confère 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 17, 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, 2 Timothée, chapitre 2, verset 9 et 15, 2 Timothée, chapitre 3, verset 16 à 17, 1 Pierre, chapitre 1, verset 23 et verset 25, 2 Pierre, chapitre 1, verset 19 à 21. Même donc, je disais que l'Écriture, à n'en pas douter, le meilleur moyen ou le meilleur chemin vers Dieu, mais si, même s'il n'est pas, enfin la Bible, même s'il n'est pas l'unique voie, vous comprenez, c'est le meilleur moyen, mais pas l'unique voie. Maintenant, vous comprenez mieux ma position. Quand on connaît le trésor que représente la Bible, on ne peut que vouloir le partager, non dans le but de fournir un critère de jugement exclusif sur qui est chrétien et qui ne l'est pas, mais bien pour équiper tout chrétien de l'instrument d'épanouissement et de purification de la foi que constitue la parole de Dieu. Confère Éphésiens chapitre 6 verset 17, Hébreux chapitre 4 verset 12. En effet, j'ose penser que ces hommes et ces femmes que j'ai croisés à l'aumônerie et que je continue de rencontrer dans ma paroisse développeraient encore plus leurs qualités humaines et chrétiennes si, à leur prière et à leur dévotion, ils associaient toujours davantage l'écriture. Je mettrai toutefois une condition à ma dernière remarque. Lire la parole de Dieu, certes, mais dans la tradition de l'Église, ce qui nous ramène aux prêtres et aux religieux dont j'ai parlé plus haut. Ceux-ci, comme je l'ai dit, m'avaient impressionné par la subtilité de leur approche de la Bible. C'est ici que je me dois de mentionner une rencontre qui, avec le recul, a été décisive. Je vais maintenant aborder le chapitre qu'on pourrait intituler « La découverte de la liturgie des heures » et le mûrissement de la règle de prière de ce site, son élaboration. En 1988, j'avais fait le choix, comme je l'ai dit auparavant, de prendre mes distances avec le mouvement évangélique. J'avais commencé à fréquenter l'aumônerie dès 1987, mais en 88, j'avais franchi un pas supplémentaire, j'avais en effet décidé d'y loger. Ce faisant, j'étais devenu membre de la communauté dite de Bernanos, nom de l'aumônerie universitaire de Strasbourg, l'AUC. Et voilà que j'étais adoubé bernanosien. Il était désormais évident que mon engagement au service de l'Église devait s'intensifier. Je trouvais dans cette nouvelle responsabilité de membre de l'AUC une grande joie. Quel contraste avec les gros bibliques. Nous n'étions ni formatés ni surveillés. L'amitié passait avant la doctrine. Et dire que certains protestants reprochent à l'Église son excessif dogmatisme. Ce n'est en tout cas pas ce que j'ai vécu sur le terrain. Certes, cette liberté présente les défauts de ses qualités, le plus flagrant de ces défauts étant assurément le manque de formation religieuse et spirituelle. Il faut cependant nuancer, car pour ceux qui le désiraient, des ateliers de foi étaient proposés ainsi que des temps de prière, notamment pour nous bernanosiens, nous étions 8. Nous étions même chargés de préparer ces petits temps de prière. Mais là encore, il me faut signaler que la Bible et les jalons nécessaires à sa lecture priante ne faisaient pas partie des formations proposées. Cela semblait bel et bien réservé aux catholiques d'élite, que sont prêtres et religieux. C'est maintenant le moment de parler plus avant de cette rencontre qui allait m'apporter l'instrument que je cherchais, celui qui me donnerait régularité et constance dans la prière, ainsi que dans la lecture de la Bible. Dans la communauté de Bernanos, j'avais pris l'habitude de venir me recueillir dans la salle de prière de l'aumônerie avant d'aller me coucher, moment d'intimité délicieux avec mon Seigneur. Ma prière s'alimentait tant bien que mal au moyen d'une lecture d'un passage biblique dont j'avais pris les références dans ma petite brochure évangélique « La Bible en un an ». Ce temps de prière comprenait également la lecture de la vie du saint du jour et la lecture du message du jour dans Dieu appelle, livre qu'il me fut donné de découvrir grâce à une bernanosienne qui, elle aussi, allait jouer un rôle non négligeable dans mon cheminement spirituel. Ce livre, vous pouvez trouver plus de renseignements et vous abonner à des messages de ce livre en allant sur la page d'accueil, les 5 fondamentaux, et vous avez Dieu appelle vivre par l'esprit. Donc, le livre de vie des saints que j'utilisais était ce qu'on appelle une fleur des saints. Il m'a non seulement permis de découvrir de nouveaux amis célestes, amis que je commençais à prier en demandant leur intercession, confère Hébreux chapitre 11 verset 4 à chapitre 12 verset 1, puis verset 22 à 23. Mais surtout, donc ce livre, La Fleur des Saints, par son annexe en fin de volume, ce livre éveilla ma curiosité sur deux points fondamentaux de la tradition. Les docteurs de l'Église et les 21 conciles œcuméniques, à moins que pour les conciles, ce ne fût l'annexe de l'encyclopédie catholique Théo. C'est à partir de ce moment-là que je pris la ferme résolution d'approfondir ma connaissance des docteurs de l'Église et d'entamer des recherches quant aux décisions prises lors des conciles. Ainsi, pensais-je, et je le pense toujours, je serai à l'abri de dérapages doctrinaux tels que celui que j'avais entendu dans une conversation entre mon ami évangélique et son interlocuteur musulman. Vous vous souvenez probablement de cet épisode dans un des enregistrements précédents. J'avais pressenti également que la tradition m'aiderait dans mon approche biblique et dans l'approfondissement de la connaissance de mon Seigneur Jésus-Christ. N'aime-t-on pas davantage une personne que l'on connaît mieux? La tradition, la doctrine et les dogmes n'ont pas d'autre but que celui-ci. Il vous est maintenant facile de reconnaître le deuxième axe de la formation que je propose sur ce site. Le premier étant, rappelons-le, la Bible. Donc, mon site n'est en définitive que mon désir de vous faire partager les encres spirituelles que j'ai découvertes chemin faisant. Elles vous aideront, je l'espère, à arriver à bon port, solidement amarrées au roc de la foi. Comme je venais de le dire, donc, je priais tous les soirs avec mon petit schéma de prière. Lecture de la vie du saint du jour, lecture de la Bible, sans oublier mon message de Dieu appel. Le plus souvent, j'étais seul avec le Seigneur, mais de temps à autre, j'étais rejoint par un autre Bernanosien, Benoît. C'était un personnage, beau, musclé, plein de vie, avec le parler délicieux que le Québec lui avait donné. Il était en France pour un an. Cela faisait partie de son cursus d'études, études qui, signalons-le, désespéraient toutes les demoiselles. Pensez donc, il se destinait à la prêtrise. J'avais remarqué, quoi d'étonnant pour un futur prêtre, qu'il priait à l'aide d'un livre que d'aucuns appelleraient le bréviaire. Il s'agissait en fait de prières du temps présent. Donc, si vous voulez une différence entre bréviaire et prières du temps présent, je vous conseille d'aller dans l'espace partage au livre d'or. Et vous trouverez un message qui traite de la différence. Donc, par la suite, j'appris que ce livre était celui que les prêtres et les diacres utilisaient. Je fus par là sensibilisé à la liturgie des heures en tant que prière individuelle. Les mots de vêpres et de l'aude ne m'étaient pourtant pas tout à fait inconnus. Il m'était en effet arrivé de participer épisodiquement à ces offices dans le cadre de la prière communautaire des Dominicains de Strasbourg. Je me rappelle aussi avoir entendu Anne, bernanosienne que j'ai mentionnée à l'occasion de ma découverte de Dieu appel, se plaindre de la difficulté qu'il y avait à manier prière du temps présent correctement. Comme elle avait raison, il me fallut quelques mois pour en venir à bout. Je voudrais d'ailleurs, cher internaute, vous épargner ce tracas avec les formules intégrales et autonomie que vous pouvez trouver sur la page d'accueil de mon site. Donc le jeu en valait vraiment la chandelle. L'aide que je cherchais se trouvait dans ce trésor de l'Église. Il serait ici trop long de vous expliquer en détail les raisons pour lesquelles le bréviaire, ou prière du temps présent, est un compagnon de prière si précieux, d'autant que cela a déjà été fait sur cette page de mon site « Pourquoi prier la liturgie des heures ?». Vous trouverez donc cette page sur la page d'accueil. Vous avez les cinq fondamentaux et vous avez, je crois que c'est oui, « Prier ». Et si vous cliquez sur « Prier », vous avez « Pourquoi prier la liturgie des heures », la prière, etc. Donc, n'hésitez pas à consulter cette page. Disons simplement que ce livre, donc « Prière de temps présent » ou le bréviaire, favorisait à la fois la régularité de la prière et la lecture de la Bible. La réalisation de ce dernier aspect se trouvait grandement facilitée par un plan de lecture biblique cohérent et bien pensé, notamment dans l'office des lectures, ce qu'on appelle aussi la « Lectio Divina ». De même, le cadre fourni dans les offices mettait en relief la parole de Dieu par une mise en condition indispensable quand il s'agit d'entrer en dialogue avec le Seigneur à l'aide de sa parole. L'élaboration de la règle de prière de ce site est venue ensuite, au fur et à mesure de ma pratique de la liturgie des heures, alors que je me rendais compte qu'un laïc ne pouvait, en une journée, prier tous les offices et lire de manière extensive la Bible et les textes de la tradition. En outre, il me paraissait plus que nécessaire d'inclure dans le plan de lecture biblique proposé par les offices des lectures les textes de la messe, qui sont, il est vrai, moins complets, mais plus variés sur une courte période. Et que dire des évangiles qui, sans les lectures de la messe, n'eussent jamais été lus? Ils ne sont en définitive lus qu'aux messes. En fin de compte, cette règle de prière est le fruit de mon expérience personnelle et consiste principalement à concilier deux réalités apparemment irréconciliables, à savoir le manque de temps et le désir d'approfondir sa foi, le tout par un système de roulement englobant lecture et office. Donc, maintenant, je vais aborder le dernier chapitre de cet enregistrement, qui est la Lectio Divina. En dernier lieu, je voudrais donc, comme je viens de le dire, aborder l'autre aspect fondamental que m'a apporté mon retour au catholicisme, une autre lecture de la Bible. Avec prière du temps présent, j'avais la régularité, la mise en condition et le plan de lecture, mais toujours pas de piste pour une lecture savoureuse de la parole. Comme je l'ai déjà dit, la façon de lire la Bible de mes frères évangéliques ne me satisfaisait pas. Notons que même des protestants plus tolérants, tels les baptistes, ont une lecture bien peu spirituelle des Écritures. Ils collent au texte au point de générer des interprétations dangereuses, du style « il y eut un tremblement de terre, c'est un signe de la fin des temps », confère Matthieu 24, verset 7. Quand je leur fis remarquer que l'homme avait beaucoup plus de responsabilités qu'on ne le croit dans le déclenchement des catastrophes naturelles, confère réchauffement de la planète, et pour les tremblements de terre, je vous conseille la lecture du magazine Science et Vie, numéro 1099, le numéro d'avril 2009, « Quand l'homme fait trembler la terre ». Donc quand je leur faisais remarquer, mes frères baptistes me soutinrent que l'homme n'y était pour rien, puisque les tremblements de terre, par exemple, étaient annoncés comme un signe de la fin des temps. C'était donc bien Dieu qui en était l'instigateur. Ce type de lecture de la Bible est très préjudiciable, dans la mesure où il laisse penser que Dieu est cruel et vengeur. Une lecture plus spirituelle, ou tout au moins plus subtile, au contraire, ne manquera pas de montrer que Dieu respecte la liberté des hommes et que ces catastrophes naturelles ne sont que l'indicateur que l'homme n'en fait qu'à sa tête, se faisant fi de Dieu. En ce sens, effectivement, les désastres de la nature pointent vers la fin des temps où la Bible dit que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. 2 Timothée, chapitre 3, versets 2 à 4. En guise de conclusion à cette petite réflexion, disons que beaucoup des églises jeunes et dynamiques du protestantisme, évangéliques et pentecôtistes, etc., ainsi que les baptistes plus anciens mais très proches des églises protestantes jeunes dans la lecture des Écritures, donc ces jeunes églises restent engluées dans la littéralité du texte, les ailes de leur cœur et de leur raison plaquées, les empêchant de prendre leur envol. Ils sont parfois bien loin de la fumée de l'encens qui s'élève à la prière du soir, confère psaume 141, verset 2. Comme elle est vraie cette parole de saint Paul, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. Le contact avec certains prêtres et religieux m'avait au moins appris qu'il existait une façon nourrissante de lire la Bible. Il ne manquait plus que de trouver la clé de méditation, car c'était bien de cela qu'il s'agissait. Méditer l'Écriture et non pas seulement la lire, comment y parvenir? La liturgie des heures me fournissait certes le cadre indispensable pour une bonne préparation à la méditation de la parole, mais comment appréhender le texte biblique lui-même? Contrairement à ce que l'on aurait pu penser, ce ne fut pas un prêtre ou un religieux qui m'apporta la clé, eux dont j'admirais pourtant la lecture biblique, libre et amoureuse. Ce fut en fait une cassette audio, « Comment lire la Bible d'Étienne Dallaire », qui me fournit la réponse. Je ne vais évidemment pas vous résumer l'intégralité de l'enregistrement, mais en substance, Étienne Dallaire, spécialiste biblique de la communauté des Béatitudes, conseillait une approche spirituelle de la Bible à l'instar des Juifs. Il soulignait notamment la nécessité de faire plusieurs lectures successives d'un même texte, avec un temps de prière entre chaque lecture. Le but était de se mettre à la disposition de l'Esprit pour qu'il travaille notre cœur, nous ouvrant à une plus grande compréhension des Écritures, à la manière des disciples d'Emmaüs, dont l'intelligence fut éclairée à la simple écoute du Christ. Luc 24, versets 25 à 32. Cette façon de lire les Écritures, inspirée de la lecture juive, a de toute évidence marqué ma propre lecture de la Bible, et par là la méthode de lecture biblique que je propose sur ce site. Aussi, avec la pratique, ces lectures successives préconisées par Étienne Dallaire se formalisèrent-elles en deux lectures, une globale et une éclatée, confère l'office de l'intégrale où la méthode est insérée dans l'office lui-même, donc à la page d'accueil. Vous descendez la page et vous avez l'intégrale. Les conséquences de cette approche sont en fait multiples. La prière favorisée par rapport au raisonnement pur, l'abandon à l'esprit plutôt que le recours à des méthodes recettes, Vous pouvez avoir un exemple de méthode recette qui pourrait vous aider tout au début de votre lecture de la Bible. En allant dans l'espace biblique, lire la Bible, et vous avez, je crois que ça s'appelle sur cette page de la Bible, méthode de lecture biblique numéro 2. Donc, ces méthodes recettes où crayons et couleurs, etc., sont utilisées pour disséquer le texte en fonction des personnages, etc. Et enfin, une indifférence, donc je redis, cette, mon approche qui était basée sur l'ouverture à l'esprit et l'abandon, etc., plutôt que d'avoir recours à des recettes où crayons et couleurs sont utilisés pour disséquer le texte en fonction des personnages, eh bien, une autre conséquence, c'est aussi une indifférence, pour ne pas dire une méfiance, vis-à-vis de la méthode historico-critique, si desséchante et neutralisante de sens spirituel, au point parfois d'anéantir la puissance de la parole de Dieu au profit d'un relativisme navrant. Je ne dis pas que cette méthode n'est pas utile pour nuancer certains passages bibliques choquants, mais utilisée comme fondement de lecture est, à mon sens, plus que préjudiciable. J'ai développé une explication de cette approche biblique équilibrée qui prend des éléments de la méthode historico-critique, mais surtout qui reste très spirituelle, dans une page que vous trouverez aussi dans l'espace biblique. Mais je voudrais vous préciser ce qu'est la méthode historico-critique. En fait, la méthode historico-critique consiste à analyser le texte et sa composition pour essayer de trouver le plus possible quel était le message de l'auteur à l'époque où il a écrit. Ce qui est intéressant, mais n'est pas suffisant, puisque si l'auteur de la Bible est en profondeur Dieu, eh bien le message peut bien sûr transcender les époques pour venir nous rejoindre dans le quotidien, ce que la méthode historico-critique est incapable de faire. Donc deux autres conseils qu'Étienne Dallaire apporta dans son enregistrement m'influencèrent également, même si ce fut dans une moindre mesure. 1. Ne pas s'imaginer en train de prêcher son petit commentaire à ses frères, ce qui m'apprit à ne pas confondre abandon à l'esprit et imagination ou rêverie mentale. S'imaginer en train de prêcher est flatteur et prétentieux, mais s'imaginer comme certaines approches le suggèrent, être un personnage présent dans le texte est tout aussi dangereux, au sens où l'imagination est virtuellement identifiée à la prière et à l'abandon à l'esprit. En définitive, cette approche d'abandon à l'esprit est une traduction concrète de ce qu'on appelle se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Le deuxième conseil qui retint mon attention dans l'enregistrement n'avait pas d'autre but que de nous encourager à laisser la parole éclairer la parole, ou comme on le dit parfois en théologie catholique, de prendre conscience du canon dans le canon. Il n'est en effet pas rare qu'un passage difficile gagne en clarté grâce à la résonance d'un autre passage que l'esprit fait surgir à notre mémoire. Je pense en particulier à Jésus qui déclare à plusieurs reprises « Je suis ». Pourquoi cette insistance sur son existence si ce n'est pour faire écho à Exode 3,14, où Dieu révèle son nom qui peut se traduire précisément par « Je suis ». Ou bien encore, Jésus écrivant sur le sable alors que certains juifs essaient de le piéger en lien avec la femme adultère. Confère Jean chapitre 8, verset 6. Ne prend-il pas une saveur, ce passage, ne prend-il pas une saveur nouvelle si on le compare aux tables de la loi écrites du doigt de Dieu? Exode 31, verset 18. La signification du rapprochement de ce passage biblique est que Jésus est Dieu. Sa nouvelle loi est moins figée dans le texte, confère le sable, ce qui, soit dit en passant, n'est pas sans rappeler cette autre parole de la Bible, la lettre tue, mais l'esprit vivifie, que j'ai déjà citée, 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6, où le sens est très voisin, donc, de cette parole de saint Paul, un cœur guidé par l'esprit vaut mieux que l'observance rigide de certaines pratiques, confère aussi Osée, donc, chapitre 6, verset 6, Isaïe chapitre 29, verset 13, Marc chapitre 7, verset 3 à 12. Ainsi, comme vous le voyez, la Bible appelle la Bible et s'enrichit par elle-même d'un sens toujours nouveau. On ne peut bâillonner un texte en l'isolant du reste de la Bible sous peine de donner lieu à des interprétations sectaires qui ont précisément en propre de donner une importance disproportionnée à un passage par rapport à l'ensemble du message biblique, confère le baptême des morts chez les Mormons en référence à un seul verset, 1 Corinthiens 15, 29. Celui-ci, donc Paul, en effet, mentionne une pratique marginale sur laquelle donc notre cher saint Paul ne se prononce d'ailleurs pas. Je parlais d'isoler et par là bâillonner le texte biblique, mais en fin de compte, la méthode historico-critique utilisée exclusivement ne contribue-t-elle pas à cet étouffement du texte en interdisant nombre de rapprochements sous prétexte que les Écritures eurent des auteurs humains ne vivant pas aux mêmes époques, oubliant de ce fait que la Bible fut inspirée par un seul auteur, Dieu. À cet égard, je me souviens avoir lu un commentaire dans la veine de l'école de pensée, mû par la critique historico-critique. Elohim, mot traduisant Dieu, qui est au pluriel en hébreu, mais qui est suivi d'un verbe au singulier, ne pouvait, selon le commentateur, faire référence en profondeur à la Trinité, puisque l'auteur n'avait pas connaissance de ce mystère à l'époque où il avait écrit. Et alors, les Hébreux n'avaient pas conscience du baptême quand ils sont passés par la, quand ils ont passé la mer Rouge, Exode 14, 21-29. Cela n'a pourtant pas empêché saint Paul d'y voir une préfiguration du baptême, 1 Corinthiens 10, versets 1 à 2, ni saint Pierre de voir dans le déluge une figure du baptême, 1 Pierre, chapitre 3, versets 20-21. Que de dégâts ont été faits dans nos séminaires dans les années 70, où les prêtres ont été surtout formés à lire la Bible avec le regard froid de l'historien. Beaucoup ont fini par ne plus prendre l'écriture au sérieux. Les miracles n'étaient que des symboles que les évangélistes auraient rajoutés au gré de leur fantaisie, etc. Ici, notre Église eût été bien inspirée de se laisser enseigner le respect de la parole de Dieu par les évangéliques, pentecôtistes et autres branches jeunes du protestantisme. Tout est en définitive une question d'équilibre entre la connaissance de la composition de la Bible, une interprétation spirituelle et le respect d'une certaine littéralité. Fort heureusement, l'Église catholique, depuis quelques années, tend vers cet équilibre. Je vous conseille d'ailleurs de lire les conclusions du synode qui a été fait sur la parole de Dieu, convoqué par Benoît XVI en octobre 2008. En conclusion de ce point sur la juste manière de lire la Bible, je voudrais attirer votre attention sur la conséquence de cette lecture libre de la Bible que je viens d'exposer plus haut. Interprétation où, loin de se contredire, les passages rentrent en résonance les uns par rapport aux autres et s'expliquent sous l'inspiration de l'Esprit, à qui l'on a donné toute latitude, lui qui nous aime tant qu'il attend notre feu vert pour nous guider par respect de notre liberté humaine. Je disais donc qu'il y avait une conséquence, ou plutôt une condition pour laisser la Bible s'éclairer par la Bible. Il faut la lire souvent et beaucoup. On doit également la lire en entier. Je vous conseille d'ailleurs d'aller de nouveau dans l'espace biblique, à la page d'accueil, lire la Bible, et vous verrez, il y a un plan de lecture de la Bible sur 3 ans. J'aime comparer donc notre rapport aux Écritures à celui qu'il peut exister entre nous et un animal craintif. Ce rapport se caractérisera par la patience et la douceur. Il faut en quelque sorte se laisser apprivoiser par l'Écriture après l'avoir apprivoisé nous-mêmes par notre persévérance et notre délicatesse. Or, comment cela peut-il se faire si l'on ne se fréquente pas souvent dans un respect absolu? Voilà, fin de l'enregistrement.